Le journal, bonjour Christelle Rebière.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin la disparition donc d'un pionnier de l'agroécologie. Pierre Rabhi est mort à l'âge de 83 ans. Il avait notamment théorisé le rôle du colibri pour éteindre un incendie. Il prenait le respect de la nature et de la simplicité. On y revient après les autres titres, Christelle.
La guerre des droites peut commencer, les candidats sont en place. Valérie Pécresse, qui représentera les Républicains, promet une franche rupture. Éric Zemmour, lui, veut montrer sa force dans son premier meeting tout à l'heure à Villepinte. 52 000 contaminations au Covid dans les dernières 24 heures. La vague continue de monter. Dans les stations de ski, le pass sanitaire est désormais obligatoire pour les remontées mécaniques. Rugby, Bordeaux-Bègles, le nouveau leader du top 14. Les Bordelais ont battu le Stade Toulousain 17-7. Enfin, le lait au prix du beau. Le musée des arts décoratifs à Paris propose une expo inédite, vintage et amusante sur les objets designés que l'on trouve en supermarché depuis 70 ans.
Et à 8h20, notre invité sera politique, l'eurodéputé du Rassemblement National, Philippe Olivier.
France Inter. Il prônait la sobriété heureuse. Pierre Rabhi, l'un des pionniers du néo-ruralisme né en Algérie et qui a beaucoup inspiré les écologistes dans notre pays, est mort brutalement à l'âge de 83 ans. Fondateur du mouvement Colibri, c'était un paysan, philosophe, romancier et essayiste. Célia Kiré.
Avec sa barbichette, son œil rieur, ses chemises à carreaux et pantalons en velours, Pierre Rabhi défend inlassablement des concepts qui irriguent la société et le débat politique. La sobriété heureuse, ce sera le titre de l'un de ses ouvrages. Le partage des richesses ou encore la légende amérindienne des colibris, il la raconte à maintes reprises.
Il y a eu un incendie de forêt et tous les animaux étaient atterrés, ils ne savaient plus que faire face à cet incendie. Et par contre, le petit colibri, il ne renonce pas. Il va prendre quelques gouttes d'eau dans la rivière et il vient les jeter sur le feu. Et à un moment, le tatou, énervé par ce mouvement, lui dit mais qu'est-ce que tu fais, colibri? Tu sais bien que tu ne pourras pas éteindre le feu avec tes gouttes d'eau. Et le colibri qui répond, je sais, mais je fais ma part.
Faire sa part, voilà l'essentiel du message repris par ses héritiers, comme le réalisateur Cyril Dion. Pierre Rabhi est un paysan né en Algérie, élevé dans une famille catholique française. Il découvre l'usine, l'agriculture productiviste, avant de créer sa propre ferme en Ardèche dans les années 60. C'est le retour à la terre, avec une méthode, l'agroécologie. Il parcourt également le monde, et notamment l'Afrique, pour défendre ses concepts. Adulé par certaines associations écologistes et ONG, il est aussi critiqué, parfois, pour son admiration du divin, ou ses prises de position sur certains modèles français.
Les réactions sont nombreuses pour Cyril Dion, auteur du documentaire à succès « Demain, c'était un grand frère ». L'écologiste Sandrine Rousseau salue un homme visionnaire, mais avec quelques bémols.
Pour moi, c'est l'homme qui a mis dans le débat philosophique, politique, intellectuel, la question de la sobriété heureuse. En ça, il a été vraiment précurseur. Il avait une manière de dire les choses qui donnait envie de s'intéresser au colibri et à renoncer à la société de consommation. Donc là-dessus, il a vraiment été très très précurseur. Et surtout, il l'a amené avec cette idée que c'était une sorte de chemin personnel, d'accomplissement aussi. Il y avait une démarche spirituelle dans la démarche de Pierre Rabhi. Ça n'était pas présenté comme une contrainte, mais c'était présenté au contraire comme quelque chose de libérateur. C'est cet aspect-là que je retiendrai de Pierre Rabhi. Après, sur les questions sociétales, par contre, il était très conservateur. Son héritage est un peu entaché par ça, alors que vraiment, sur la sobriété heureuse, c'est extraordinaire ce qu'il a écrit.
Des propos recueillis par Adrien Serrière, Pierre Rabhi, qui avait été aussi un éphémère candidat à la présidentielle en 2002.
Et la campagne pour l'Élysée 2022 se lance véritablement aujourd'hui.
Chaque camp contre ses alliés va s'appliquer à faire une démonstration de force. Éric Zemmour tient son premier meeting à Villepinte. Il tend par ailleurs la main au déçu des Républicains, ceux qui avaient misé sur Éric Ciotti. C'est finalement Valérie Pécresse qui portera les valeurs et les couleurs de la droite traditionnelle. Pour ne perdre personne en route, elle promet un projet de franche rupture, de restaurer la fierté française et de protéger les Français. Audrey Tison.
Unité sur la photo de famille réalisée au siège du parti hier, unité aussi sur le terrain, Valérie Pécresse va rendre visite à chacun de ses anciens concurrents désormais soutien. Première étape ce lundi dans les Alpes-Maritimes à Nice et Saint-Martin-Vésubie, village d'origine d'Éric Ciotti. Suivront des déplacements dans les Hauts-de-Seine chez Philippe Juvin, en Savoie chez Michel Barnier et dans les Hauts-de-France, région de Xavier Bertrand, a priori dans la même semaine. En revanche, le grand meeting d'investiture prévu ce samedi à Paris n'aura pas lieu, en tout cas pas en présentiel, vu la situation épidémique. Autre chantier des prochains jours, étoffer l'équipe de campagne pour intégrer des membres des autres équipes en lice. Patrick Stefanini restera à la baguette. Les candidats perdants devraient se voir attribuer des missions thématiques. Michel Barnier à l'international ou Xavier Bertrand à la justice sociale.
Quant à Jean-Luc Mélenchon, grand meeting à la Défense, le candidat de la France Insoumise en profitera pour présenter son parlement de campagne. Une centaine d'insoumis et une autre de personnalités venues de la société civile, intellectuelle, syndicaliste, associatif et quelques artistes, dont l'écrivaine Annie Ernaux, pour faire l'union de la gauche, dit-il, par la base. À l'étranger, les États-Unis et leurs alliés, dont l'Union européenne, accusent le régime taliban en Afghanistan de mener des exécutions sommaires contre d'anciens membres des forces de sécurité afghanes. Ils considèrent que ces violations des droits de l'homme contreviennent à l'amnistie que les fondamentalistes avaient annoncée au départ. 10 millions de Français ont déjà reçu une dose de rappel face à l'afflux de patients qui ont jusqu'au 15 janvier pour faire leur troisième dose. Les vaccinodromes rouvrent. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, promet que de nouveaux créneaux, de nouveaux rendez-vous continueront d'ouvrir chaque jour. La situation continue de se dégrader. Près de 52 000 cas de Covid ont été recensés ces dernières 24 heures. Et au moment où commence timidement la saison des stations de ski, le pass sanitaire redevient obligatoire pour les remontées mécaniques. Le directeur de la station au Savoyarde de Semnoz, Grégoire Chavanel, approuve ce protocole.
C'est un mal pour un bien quelque part, puisqu'au final c'est un protocole qui reste applicable. On va demander le pass de la personne qui vient acheter et on va l'informer. Attention, vous êtes bien au courant que si vous achetez 6 passes, les 6 personnes doivent avoir le pass sanitaire. Si elle se présente à une remontée mécanique, là pour le coup nous aurons des contrôles non systématiques, des vérifications par nos agents formés pour ça et qu'ils seront aptes eux à refuser l'accès aux remontées. C'est surprenant, 100% des gens qui se sont présentés en caisse, ils étaient déjà bien informés de la mesure. Je pense que la plupart des gens ont un pass, alors nous on aura aussi pendant les périodes de forte activité de la station, on aura un laboratoire qui va venir proposer des tests. Alors bien sûr ils seront payants, des tests PCR ou antigéniques. Pour le masque, en réalité le masque il est obligatoire uniquement pour les personnes qui ont plus de 11 ans. Il est obligatoire dans toutes les files d'attente et sur toutes les remontées mécaniques collectives. C'est contraignant, mais c'est applicable et ça nous permet de maintenir l'activité ouverte, donc ça, on est très content.
Grégoire Chavanel, interrogé par Colline Mollard de France Bleu, Pays de Savoie. Le compteur du Téléthon s'est arrêté sur 73 622 000 euros de promesses de dons pour la recherche sur les maladies rares. L'an dernier, le Téléthon, confiné, n'avait affiché que 58 millions. Les sports avec un nouveau leader du top 14, l'Union Bordeaux-Bègles, s'est offert le Stade Toulousain 17-7 et s'installe en tête du championnat. Un essai de chaque côté, marqué au terme d'un match dominé par les Bordelais dans un stade Chaban-Delmas plein à craquer, 32 500 spectateurs. Un succès important pour le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles.
Forcément très heureux d'avoir gagné aujourd'hui, de confirmer déjà la victoire du Racing la semaine dernière. On avait la première place qui était en jeu, tout n'a pas été parfait. Ce deuxième mi-temps, c'est un temps où on fait des petites erreurs qui le remettent dans le match alors qu'on n'est pas forcément en danger sur toute la première mi-temps. Et on se met en danger tout seul, mais la force de caractère de l'équipe elle a été top pour reprendre le score le plus rapidement possible et gagner aujourd'hui. C'était une étape, une marche qu'on s'était donnée. On s'est dit, voilà, avant la Coupe d'Europe, il faudrait peut-être... Prendre la première place, ça permettrait de partir la tête un peu libérée en Coupe d'Europe et de jouer notre va tout comme le leader anglais la semaine prochaine.
Voilà, les deux prochains week-ends seront consacrés aux Coupes d'Europe. Le nouveau leader Bordeaux-Bègles recevra le premier du championnat d'Angleterre, Leicester. Le champion d'Europe en titre, Toulouse, ira à Cardiff. Et puis en football, le PSG est champion d'automne en Ligue 1. Il a sauvé un point à Lens, match nul un partout, mais les Parisiens n'ont pas montré un grand football.
Voilà.
Et pour non, j'ai pas tout à fait fini.
Ah, il y a autre chose. Allons-y.
Mais oui, on a une expo, faut qu'on aille.
Mais faut aller
on a une expo,
cette expo
à visiter.
Allons-y.
Quand les objets du quotidien entrent au musée dès les années 60, prise unique, lancée des objets créé par des designers. Le beau au prix du lait, disait-on. Monoprix, qui a ensuite racheté la marque, a lancé à son tour des collections capsules avec les grands noms du design de Thérèse Conran à Maison Château-Rouge. Une exposition au musée des Arts Déco à Paris leur rend hommage. Agnès Soubiran.
Ambiance grand magasin dans cette salle feutrée où tapis roulant et sacs en plastique côtoient les œuvres de la collection permanente du musée. Un peu plus loin, c'est une cuisine de Le Corbusier qui sert de décor pour présenter assiettes roses et chaises oranges en plastique. Une mise en scène, un décalage assumé par la conservatrice Marianne Brabant.
On a ce dialogue entre des œuvres muséales qui sont faites de façon souvent artisanale avec des œuvres, mes collègues de Monoprix, ils appellent des produits forcément, qui sont fabriqués fabriquées en plus grande série et qui coûtent moins cher évidemment à la production.
Cette volonté de démocratiser le design, c'est ce qui a inspiré Jean-Pierre Garot au début des années 70, créateur de fauteuils en mousse pour prise unique.
On voulait des choses pas chères, qui soient bien, qui soient belles et en même temps très ergonomiques. Dessiner des meubles dans des collections bon marché était un acte vraiment politique.
Depuis, les collaborations s'enchaînent, véritable modèle économique hautement rentable. Liliane Rosas, directrice générale adjointe de Monoprix.
Une fois par mois, nous avons une collection capsule en invitant ces designers et ces créateurs et du coup, on peut tous avoir une très jolie pièce à un prix de grande distribution.
Le beau au prix du lait, c'était d'ailleurs le slogan de l'enseigne dans les années 60, remplacé ensuite par le plus consensuel, le plaisir de vivre à la française.
Voilà, et rendez-vous au musée des arts décoratifs à Paris jusqu'au 15 mai.
Exposition 60-70-70, ça c'est mon dada, c'était le journal
ça tombe bien.
De Christelle Rebière.
Avec sa montre orange. C'est
vrai, allez, oui. le temps de ce dimanche.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Jean-Michel Golinski, on va rester sous l'influence d'un temps bien perturbé, hein.
Ah, c'est vrai, un temps agité, le plus souvent menaçant, avec des températures partout en baisse par rapport à hier, de l'ordre de 2 à 4 degrés de moins. Le vent sera très turbulent, vers 100 km à l'heure sur les côtes de la Manche, de l'océan autour de la Méditerranée, voire même 120 en pointe sur le littoral landais. La dépression centrée sur les îles britanniques, qui donne ce courant de secteur nord turbulent et frais, nous envoie également un régime d'averses généralisées, parfois de pluie et de neige mêlées jusqu'en plaine, et de neige à basse altitude sur tous les massifs. Près des Pyrénées, les nuages bloqués par la chaîne vont donner beaucoup de neige, notamment sur la partie ouest, placée en vigilance orange avalanche. Et puis on notera un ciel tout de même plus clément du Poitou-Charentes à la Bretagne et du Languedoc-Roussillon à la Provence.
Jean-Michel Golinski, Météo France.